Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.
Bonjour Alain Fischer.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur RTL. L'agence norvégienne du médicament a établi un lien entre au moins 13 décès et les effets secondaires du vaccin Pfizer. Alors certes, il s'agissait de personnes âgées de plus de 80 ans à la santé très fragile. Mais immédiatement, on se dit, est-ce que nous devons nous inquiéter pour nos aînés et est-ce qu'il faut stopper la vaccination dans les EHPAD ?
Il faut bien avoir conscience que, malheureusement, mais c'est inéluctable, chaque jour, il y a de très nombreux décès dans les maisons de retraite et dans les EHPAD spécifiquement. En France, de l'ordre de 400. En Norvège, de l'ordre, si on rapporte à la population, de plusieurs dizaines. Donc, lorsqu'il y a des événements de décès qui surviennent dans la journée qui suivent une vaccination, ils pourraient, en théorie, être dus à la vaccination, mais ils ont une beaucoup plus grande probabilité d'être dus à l'évolution naturelle de la vie et des maladies que présentent ces gens. Les informations que nous avons sont que ces personnes étaient extrêmement faibles, avaient, comme on dit, de multiples comorbidités. Certains étaient en soins palliatifs. Donc, bon, ce sont beaucoup d'éléments qui laissent penser plutôt que le vaccin n'est pas impliqué, d'autant qu'il n'y a pas d'autres, entre guillemets, d'autres nouvelles, d'autres signaux de ce type émanant d'ailleurs, ni de France d'ailleurs. Cela dit, comme il se doit, ce type d'information est prise au sérieux. Ces données sont analysées, bien sûr, par les autorités norvégiennes, mais aussi par l'Agence européenne du médicament. Je sais que, en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament, dirigée par Madame Ratigné, suit ça de très très près, avec des services qui sont mobilisés sur ces questions. Donc je pense qu'il faut simplement poursuivre la vigilance, mais remettre dans le contexte ces événements, et certainement pas, pour l'instant, modifier quoi que ce soit à une politique de vaccination qui est hautement bénéfique.
Oui, il faut préciser que les effets secondaires étaient de la fièvre et des nausées. Il y a un autre sujet qui inquiète Alain Fischer. Le variant sud-africain serait, selon certains biologistes, indétectable au test PCR. D'abord, est-ce que vous le confirmez ?
Apparemment, oui. Hein, ça, après, on peut rentrer dans la technique. Il y a différentes façons de faire des PCR, mais dans les tests PCR usuels, du moins, oui.
Est-ce que ça veut dire que les vaccins actuels ne seront plus efficaces dans quelques semaines ?
Non, non, il ne faut pas s'alarmer à ce point, même s'il est à nouveau légitime de se poser des questions. Je vais répondre d'abord, si vous voulez bien, à travers ce que l'on sait du variant britannique, qui est celui qui circule plus que le variant sud-africain sur le territoire français, pour lequel des tests dont on a les informations, sur lesquels on a les résultats, indiquent que les anticorps produits par les personnes qui ont été vaccinées reconnaissent toujours bien ce variant et le neutralisent de façon identique à des virus classiques dans des tests faits au laboratoire. Les données sont moins complètes pour le variant sud-africain, il faut attendre un tout petit peu. Évidemment, c'est un point de vigilance. En même temps, il faut savoir que les réponses immunitaires, c'est assez bien fait, le système immunitaire, sont très diverses. Que même si on perd un déterminant, il en reste beaucoup d'autres.
Mais vous comprenez qu'on soit quand même inquiet, parce que on entend dire que Pfizer est en train d'adapter ses chaînes de production. Mmh. Alors voilà, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'à un moment, ces vaccins, ils vont être caducs, obsolètes ?
On n'en est vraiment pas là. Je pense qu'il faut d'abord, avant d'émettre des inquiétudes ou se poser des questions, ce qui est évidemment légitime, il faut d'abord se réjouir. Excusez-moi, mais...
Mais vous avez raison, oui.
Il faut se réjouir, parce qu'en...
Mais on a quand même des questions.
Bien sûr, comme je dis, mais il faut rappeler que quand même, en une petite année, a été mis au point plusieurs vaccins, selon des stratégies différentes, ce qui est un événement unique dans l'histoire de la biologie et de la médecine, et qu'il faut s'en réjouir, et il y a un an, qui aurait parié que nous en serions là aujourd'hui. Maintenant, il y a des adaptations, des questions, les choses ne sont pas fixées une fois pour toutes et la vaccination va progresser.
Alors aujourd'hui, les plus de 75 ans ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques vont pouvoir se faire vacciner. Et là, il faut que vous m'aidiez à résoudre une équation quand même.
Oui.
Parce que d'ici à la fin février, on aura vacciné au mieux, hein, dit Olivier Véran, 4 millions de personnes.
Oui.
Sauf que si on additionne les résidents en EHPAD, les handicapés, les soignants, les pompiers, les aides à domicile de plus de 50 ans, les plus de 75 ans, les maladies chroniques, on est à 6,4 millions. Mm-hmm. Alors comment on fait ?
On prend le temps nécessaire. Ça commence aujourd'hui et c'est aussi une très bonne nouvelle que cela commence aujourd'hui, que les personnes que vous avez rappelé les caractéristiques d'âge ou de maladie puissent être vaccinées. Mais il faut aller au plus vite, au mieux. mais en prenant le temps, en s'adaptant au vaccin disponible. Donc ça veut dire que ça ira un peu plus loin que ce que vous avez dit. Et le message très important à indiquer à toutes les personnes concernées, c'est qu'elles peuvent commencer à être vaccinées, mais que leur vaccination n'aura pas forcément lieu cette semaine. Elle aura lieu en février ou fin février, en fonction des circonstances, pour permettre que progressivement, ces 6-7 millions de personnes puissent être toutes vaccinées, ce qui permettra de gagner beaucoup de vies.
Mais est-ce qu'on a les doses Vous savez, Arnaud Fontanet l'a dit au grand jury hier, grand jury RTL, il y a une urgence. On s'attend à une forte progression de l'épidémie en mars-avril. Donc là aussi, il y a quelque chose qui nous paraît un peu incohérent. On nous dit il y a urgence et en même temps, on n'a pas les vaccins.
Il y a bien sûr qu'il faut vacciner au plus vite.
Il y a de plus en plus de monde, mais on n'a pas les vaccins.
La vaccination dépend de la production des vaccins. C'est vrai pour la France, comme c'est vrai pour la communauté européenne avec laquelle la France agit en termes d'achat de vaccins, mais c'est vrai pour le monde entier. Évidemment, il y a l'incitation à la plus forte production possible, pour ce qui est de la communauté européenne, à se procurer et acheter la plus forte quantité possible de vaccins, mais au-delà, il faut rester dans le réel, des possibilités de vaccination. On sait que les capacités mondiales de production ne sont pas telles qu'elles permettent de vacciner toute la population du globe au cours de cette année. Donc il y a urgence, mais il faut vivre avec un principe de réalité, c'est quelles quantités de vaccins sont disponibles, en faisant tout ce qu'on peut pour que un maximum soit produit, un maximum soit rendu, soit distribué, mais avec, encore une fois, la nécessité de s'adapter à la situation.
On aurait dû acheter plus de doses.
Mais on ne peut pas acheter plus de doses. Il me semble, je ne suis pas un expert de l'achat.
De la production.
Oui, parce qu'il y a une certaine quantité de vaccins produites à l'échelle mondiale, et une partie part évidemment en Amérique, en Asie, enfin dans le monde entier, sauf que les pays pauvres sont malheureusement beaucoup moins bien servis, c'est un problème important qui peut rejaillir sur nous dans un second temps. Donc l'Europe a, je pense, négocié très très ardemment l'achat de vaccins, a obtenu un nombre important de doses, mais qui in fine permettra de vacciner beaucoup de monde, mais progressivement, et on attend bien sûr pour cela la validation et la mise sur le marché d'autres vaccins.
Alors, mais savez-vous quand le vaccin AstraZeneca sera disponible ?
Le vaccin AstraZeneca, il est en train d'être évalué comme il se doit très sérieusement par l'Agence européenne du médicament pour ce qui nous concerne. On attend une réponse de l'Agence européenne du médicament à la fin du mois. Donc, si leur appréciation est positive, il sera disponible en février. Évidemment, ça sera une très très bonne nouvelle, mais il faut qu'il soit évalué. On reprocherait globalement au système une défaillance si la rigueur de l'évaluation de l'efficacité, de la sécurité, de la qualité du produit n'était pas menée comme il faut.
Est-ce que vous confirmez que Sanofi va mettre ses chaînes de production à la disposition d'autres laboratoires ?
Je pense que c'est une décision logique qui permettra justement d'amplifier la production de vaccins en attendant qu'eux-mêmes produisent leurs propres vaccins.
Alain Fischer, vous disiez dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France au week-end que peut-être il faudra un jour vacciner les enfants. À votre place, vendredi, était présent le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, qui a déjà lancé une étude sur les 12-17 ans, dont il aura les résultats au printemps. Mm-hmm. Il nous disait si on pouvait vacciner les plus jeunes dans l'été, ils pourraient faire leur rentrée plus sereinement, la rentrée scolaire de septembre prochain. Vous le rejoignez là-dessus ?
Mon point était lié aux variants britanniques, parce que les données venant de Grande-Bretagne sont que, semble-t-il, ce variant est plus présent chez les enfants que ne sont les formes classiques du virus et provoque plus d'infections, même si elles ne semblent pas plus sévères. Il faut être rassurant sur ce point. Mais du coup, on peut se poser la question de savoir aussi si les enfants ne seront pas plus appliqués dans la chaîne de transmission du virus. C'est dans cet esprit-là que, si ces données se confirment, si, il y a toujours beaucoup de conditionnels, ce variant prend de l'ampleur dans la pandémie, il pourrait à un moment donné devenir logique de vacciner les enfants. C'est pas tout à fait avec le même état d'esprit, même si je comprends cette logique, mais il y a d'autres priorités quand même avant, en termes, parlait tout à l'heure, de vacciner les plus fragiles et ensuite les populations un petit peu moins âgées.
Vous avez vu que de plus en plus de Français sont favorables au vaccin, et plus étonnant, ils sont même de plus en plus favorables au passe passeport vaccinal. Est-ce que vous pensez que c'est le moyen de permettre aux gens de circuler, de voyager, d'aller au restaurant, de reprendre une vie, on va dire, presque normale, ce passeport vaccinal, ce certificat?
D'abord, je me réjouis que de plus en plus de Français soient favorables à la vaccination, mais il en reste quand même encore un certain nombre qui ne le sont pas, et un travail très important de pédagogie est à faire, auquel nous devons tous participer, y compris vous, les médias. Et en ce qui concerne le passeport, je pense que la question est au moins prématurée, si ce n'est plus, pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps une personne vaccinée est protégée. On sait que c'est 2-3 mois, c'est sûr, c'est ce qui a été montré dans les études cliniques. On espère que c'est plus, bien sûr, mais on n'a pas la preuve. On n'a pas la démonstration, loin de là, malheureusement, même si on l'espère, que le fait d'être vacciné bloque, évite la transmission du virus à quelqu'un d'autre. Donc on pourrait imaginer quelqu'un qui est le passeport, entre guillemets, mais qui continue de contaminer. Enfin, on n'a pas offert la vaccination, on en parlait tout à l'heure, à toute la population. Donc ça serait créer vraiment une situation d'injustice incroyable. Et on peut même ajouter qu'on peut s'interroger sur le plan éthique de la pertinence d'un tel passeport.
Aujourd'hui, plusieurs prix Nobel vont être vaccinés. Ça, c'est pour montrer l'exemple ?
Absolument, ce sont des prix Nobel âgés de plus de 75 ans, il faut évidemment le mentionner.
Tous français ?
Français, oui, ça c'est une organisation à l'échelle française. C'est un symbole bien sûr, mais c'est le symbole d'abord de la science. C'est la science qui permet de faire des progrès, et puis c'est indiquer à chacun que cette option qui a été prise et qui est développée de façon évidemment la plus intense possible depuis quelques semaines, est la bonne pour sortir de cette pandémie et de tout ce qu'elle entraîne.
Et vous n'avez que 71 ans, vous n'êtes pas encore prix Nobel, mais vous êtes vacciné.
Je suis la bonne raison, soyons sérieux, c'est que je suis professionnel de santé, je vois encore des patients, y compris des patients qui sont immunodéprimés, qui sont fragiles, et qui expliquent pourquoi j'ai été vacciné.
Merci professeur Alain Fischer.
Merci.
Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, qui confirme l'efficacité du vaccin même face au variant anglais, qui confirme aussi que le variant sud-africain serait indétectable pour l'instant au test PCR. Concernant le passeport vaccinal, il soulève des problèmes d'éthique, vient de nous dire Alain Fischer.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.